Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Marc, au chapitre 5. Alors si vous n'avez pas de Bible, ben, c'est pas grave, laissez-vous porter par le récit, et même si vous avez une Bible, laissez-vous porter par le récit, c'est une histoire. Marc chapitre 5, à partir du verset 21. Jésus regagna en barque l'autre rive où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jaïrus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie ». À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous de ce tumulte et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il l'a pris par la main et lui dit, « Talita kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit en marche, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Et il représentait un obstacle pour eux. Et Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et sa famille. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Beaucoup de choses dans ce passage. Trois scènes principales. Deux scènes intercalées. Celle de la guérison de Jaïrus. Et puis celle de cette femme atteinte d'une hémorragie. Et puis une troisième scène qui se passe dans la région où Jésus a grandi, là où réside sa famille. Mais en fait, nous allons nous concentrer sur la scène centrale. Celle qui voit cette femme venir toucher le vêtement de Jésus en espérant être guérie. Mais nous verrons que notre réflexion se nourrira de plusieurs éléments des deux autres scènes qui l'entourent. Cette femme, donc, bien que nous disant peu de choses sur elle, son origine, ses liens familiaux, Marc nous donne des détails très précis sur le mal qui la ronge. Elle perd du sang en permanence. Selon toute probabilité, ça se situe au niveau gynécologique. Alors que les autres narrateurs de cet épisode, Luc et Matthieu, se montrent plus réservés, Marc, dans son style très direct, ne fait guère de concessions au monde médical de son époque, lorsqu'il dit que c'est entre les mains des médecins qu'elle a souffert, qu'elle s'est ruinée, et que c'était plutôt pire après qu'avant. 12 ans donc que cette femme est atteinte de ce mal. Et en dehors de cet inconfort, de l'inconfort de cet écoulement permanent, elle est très probablement anémiée. Et son corps ne fabrique pas assez rapidement de globules rouges pour compenser la perte. Elle est ainsi privée de toute ressource physique. Elle manque de force et d'énergie pour accomplir les moindres gestes du quotidien. D'autre part, dans cette culture qui fait la part belle à l'honneur et qui stigmatise la honte, où la fécondité est vécue comme une bénédiction, voire même l'approbation de Dieu, ce mal intime ne peut être que très difficile à partager avec d'autres. Et même de nos jours, ce ne sont pas des choses qui s'étalent sur la place publique. Mais en plus, à cette époque, la honte accompagne inévitablement ce genre de mal. Et nous réalisons ceci quand elle se jette aux pieds de Jésus en lui disant toute la vérité. Elle se lâche comme s'il s'agissait d'un aveu. Cette rencontre de Jésus avec cette femme est une rencontre avec les petites gens. Elle n'a même pas de nom. Enfin, si, mais on ne nous le dit pas. Contrairement à Jaïrus, le chef de la synagogue. Comme beaucoup d'autres, elle est une anonyme. Elle fait partie de la populace. Ceux que personne ne voit, les sans grade, les sans talent particulier, si ce n'est de passer sous le radar de l'estime des autres. Elle, personne ne viendra la présenter à Jésus, contrairement aux paralysés, par exemple, que plusieurs autres se réunissent pour la porter sur une civière devant Jésus. Son mal n'est pas visible, son mal n'est pas connu, son mal est trop honteux. Mais elle tient quand même à s'approcher de Jésus, parce qu'elle a compris une chose. Cet homme, ce Jésus, a quelque chose que les autres hommes n'ont pas. Cet homme, ce Jésus, voit des choses que les autres hommes ne voient pas. Ce Jésus fait des choses que les autres hommes ne font pas, et elle est persuadée, en l'occurrence, que cet homme, ce Jésus, lui donnera la guérison qu'aucun autre homme ne peut lui donner. Et enfin, cet homme, ce Jésus, porte le même regard sur tout le monde. Les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, les faibles, les puissants, les chefs, Jaïrus, elle, l'anonyme, chose que notre lecture met en évidence. Et ce qui nous est présenté comme une parenthèse au milieu de ce déplacement de Jésus chez Jaïrus, prenant le risque aux yeux de tous d'arriver trop tard pour sauver la jeune fille, et les circonstances vont sembler même lui donner raison à cette crainte, tout ceci nous apprend énormément de choses sur le temps de Dieu et sur la compassion de Dieu. Le mal qui atteint cette femme touche quelque chose de vital, et pas seulement au sens physique du terme. C'est aussi en rapport avec la maternité, la capacité de donner la vie. La perte de sang est dans l'ordre des choses dans le cycle féminin, et c'est dans ce cycle que se développe la vie. Elle est temporaire, cette perte de sang, et le corps possède les ressources pour reconstituer les réserves et rendre cette source de vie féconde. Mais là, chez elle, la source s'épuise. Elle donne et donne encore, sans pouvoir se réguler. Et ses ressources internes ne suffisent plus à reconstituer les réserves. Et même si cette femme avait vécu à notre époque, il n'est pas certain que la médecine moderne serait parvenue à rétablir un fonctionnement correct, sauf au prix de fermer définitivement la source. Et ça aussi, c'est une grande souffrance. Pour toutes les femmes qui se trouvent ainsi privées de donner ou de redonner la vie. Et au-delà donc de toute considération physique et physiologique, nous touchons une dimension essentielle pour toute femme. Armée d'une forte conviction sur la personne de Jésus, même si je parviens à ne toucher que ses vêtements, je serai guéri. Notre femme s'approche de lui au milieu de la foule, ce qui doit être déjà pour elle un énorme effort physique. Et ce qu'elle attendait se produit. Instantanément, la perte de sang s'arrête. Elle en ressent au fond d'elle-même les effets. Quels sont ces effets? C'est difficile à dire. La guérison a-t-elle simplement consisté à interrompre ce flux permanent, laissant au corps le soin de rétablir lui-même l'équilibre au fil du temps, ou a-t-il rétabli cet équilibre dès cet instant? Il semble bien que le bien-être qu'elle ressent milite en faveur de la deuxième hypothèse, mais je n'en ferai pas une certitude, et de toute façon, là n'est pas l'important. Par contre, c'est ce qui se passe ensuite, je trouve que c'est assez intriguant. Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Cette déclaration de Marc a de quoi nous laisser perplexes. Comme si Jésus ne maîtrisait pas ce qui émane de sa personne, comme s'il ne pouvait pas ne pas guérir, comme si la chose même le dépassait, au-delà de lui-même, au-delà de sa propre volonté et même de sa propre conscience. Et je vous avoue avoir beaucoup de mal à cette idée. Et pire encore, il semble ne pas savoir qui il vient de guérir. Est-ce bien là le Jésus qui connaît la pensée des hommes avant même qu'il ne s'exprime? Est-ce bien là le Jésus qui, quelques instants plus tard, saura exactement quel est l'état de santé de la jeune fille que tous ont déclarée morte? Quant aux disciples, eux, ils sont largués. Toute une foule se presse autour de Jésus, et les images que nous avons vues cette semaine avec les foules se pressant autour de Johnny Hallyday nous aident à visualiser la scène. Et au milieu de ce bazar, ça ne peut pas s'appeler autrement, Jésus qui demande « Qui m'a touché ?» Dans ce bref instant, tout le monde semble dépassé par la situation, et même Jésus semble avoir disjoncté. Mais en fait, que voyons-nous en la personne de Jésus face à cette femme? Une source d'amour, une source de compassion, de guérison, une source débordante que rien ne peut contenir, pas même la barrière de ses vêtements. Une source intarissable, inaltérable, mettez-y tous les superlatifs hydrauliques que vous voulez. Une source qui peut renouveler celle de nos corps, de nos cœurs et de nos vies. La rencontre des deux sources que nous avons sous les yeux, la source humaine, fatiguée, épuisée, qui n'en peut plus de donner, qui ne trouve plus en elle-même les ressources pour se renouveler, et qui n'en trouve pas non plus chez ses semblables, qui ne sont pas chargés de le faire de toute façon, mais qui s'approche de la source divine, source éternelle de vie et source de vie éternelle, source jaillissante, débordante, source qui ne peut être contenue, retenue, canalisée ou empêchée par les hommes. Voilà l'image que j'aimerais dégager de ce passage ce matin. Ce qui se produit chez cette femme au cours de cette rencontre va bien au-delà de la guérison de son corps. Elle se jette aux pieds de Jésus en lui disant toute la vérité, c'est ce que nous dit le passage, et c'est probablement à cet instant que tous découvrent le mal qui la touchait et que le puzzle commence à se reconstituer pour les disciples, qui jusque-là étaient à des années-lumière de se douter de ce qui était en train de se passer dans les cœurs entre Jésus et cette femme. C'est sans doute de là également que nous tenons les éléments constitutifs de ce récit, ce que Marc a mis par écrit. La scène que nous avons sous les yeux est la complète antithèse de celle qui a vu cette femme s'approcher de Jésus par derrière, sans bruit, se sentant indigne de s'adresser à lui, mais au moins toucher son vêtement. La libération, et plus que cela, le renouvellement qu'elle éprouve en cet instant, lui fait surmonter la peur de cette foule qui l'entoure, et là, elle déballe tout. Toute son histoire, sans rien cacher, devant tout le monde. Non pas que Jésus ait eu besoin de l'entendre pour juger de sa sincérité, mais parce qu'il a souhaité que tous l'entendent. Tout comme il a souhaité de dire devant tous, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. Et sois guéri de ton mal. » Ou encore à Jaïrus, un peu plus tard, le père de la jeune fille, « N'aie pas peur, crois seulement. » Si cette scène est relatée dans la Bible et que nous pouvons encore la lire de nos jours, c'est parce que Jésus désire qu'aujourd'hui encore, il soit dit et redit qu'on peut s'approcher de lui et avoir foi en lui. Aujourd'hui encore, on peut venir à lui en se sentant indigne, coupable, honteux, peureux, malade physiquement, moralement, fatigué, au bout du rouleau, au bout d'expériences qui nous ont abîmés, salis, avilis. Et c'est précisément parce que nous en sommes là que c'est le moment de nous jeter à ses pieds et de tout lui déballer. Si nous sommes capables de faire cela, alors c'est que déjà nous avons foi en lui. Et nous pouvons être certains que, comme cette femme, de pouvoir partir vers une vie nouvelle et sauvée pour la vie éternelle. Nous pouvons placer en lui notre confiance pour tout ce qui nous est cher, comme la vie de cette jeune fille pour Jaïrus, son père, à qui Jésus déclare « N'aie pas peur, crois seulement ». Pas plus que je ne crois que Jésus puisse être obligé de faire des miracles, au-delà même de sa propre conscience, de sa propre volonté, je ne crois pas non plus qu'il puisse en être empêché. Et pourtant, c'est bien ce qu'il semble être écrit à la toute fin de notre lecture, lorsqu'il est parmi les siens. Je lis le chapitre 6, verset 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux, et il s'étonnait de leur incrédulité. Il ne put faire là aucun miracle. Qui renoncerait à mettre un chèque à l'encaissement? Uniquement ceux qui croient qu'il est en bois. Il faut accorder un minimum de foi au donateur pour qu'en définitive, il soit crédité sur notre compte. Un tel chèque existe bel et bien, il est, comme on dit, dûment signé et rédigé sous nos yeux, mais c'est seulement la foi qui pousse à le déposer à la banque, et la foi est ma réponse concrète au don qui m'est fait. Ça a été dit ce matin aussi, je crois, hein, la foi, c'est la première marche sur l'escalier. Ça commence par la première marche sur l'escalier, même si on ne voit pas tout l'escalier. Jésus empêchait de faire des miracles ? Pas vraiment. D'ailleurs, il guérit quand même néanmoins quelques malades. Ça nous est dit presque accessoirement, excusez du peu, il guérit quelques malades. Imaginez ce qui aurait pu en être s'il avait reçu le même accueil que dans les deux scènes précédentes. Mais là, nous avons des personnes qui n'ont pas besoin de lui. Jésus aurait-il besoin de notre foi ? Manifestement non. Mais nous le lisons, il s'étonne. Et il s'étonnera de ne pas en trouver en nous parce que nous, nous en avons besoin. Et ça, c'est clair si on en juge par les paroles qu'il adresse ce jour-là. Jésus, source de vie éternelle, ni obligé, ni empêché par quiconque, mais engagé. Engagé envers tous ceux qui ont foi en lui. Voici ce qu'il déclare à une autre femme qui n'est pas malade physiquement, mais qui a quand même quelques problèmes, puisqu'elle a changé 5 fois de mari. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Si vous voulez lire tout le passage concernant cette femme à qui il s'adresse, ça se trouve dans le chapitre 4 de l'Évangile de Jean, un autre auteur du récit de Jésus. Nous le voyons par ses paroles, Jésus s'engage. Ta foi t'a sauvé, dit-il à la femme de notre texte. Et à cette autre femme, il promet de la conduire dans la vie éternelle, là où la source continuera de jaillir encore en elle. Qui est-il pour s'engager de la sorte ? Et finalement, qu'est-ce que ça lui coûte ? Eh bien, je vous propose de répondre à la deuxième question pour commencer, avant de conclure par la première. Qu'est-ce que ça lui coûte ? Eh bien, à force de guérir les gens et de faire toutes sortes de miracles, de plus en plus de monde s'est approché de lui. Il a donné à tous un enseignement pour mener une vie qui fasse honneur à Dieu, dans une relation de filiation et d'authenticité avec Dieu. Mais ça a pas mal énervé les religieux responsables de son époque qui avaient mis en place un système dont Jésus dénonçait l'hypocrisie. Dans un premier temps, ils ont voulu le faire rentrer dans leur système. Mais comme ils n'y sont pas parvenus, et voyant que de plus en plus de gens devenaient ses disciples, ils ont décidé de le tuer. Pas de leurs propres mains, mais ils se sont arrangés pour faire le sale boulot à l'administration et l'armée romaine, l'armée occupante de l'époque. Les Romains s'en sont chargés avec toute la brutalité et la cruauté d'un supplice qu'ils avaient mis au point pour mater toute rébellion dans l'Empire. Et ce supplice, c'était le supplice de la croix. Voilà ce qui en a coûté à Jésus. Il aurait pu se rétracter à temps quand il a vu que ça commençait à mal tourner, mais non, il s'était engagé. Engagé envers cette femme, engagé envers l'autre femme aux 5 maris, envers plein d'autres personnages qui avaient cru en lui et envers tous ceux qui croiraient en lui dans les temps futurs. Et ça tombe bien, nous vivons aujourd'hui un temps futur de cette époque. Avec lui ont été cloués sur la croix nos fautes, nos hontes et nos peurs. Et donc maintenant, la réponse à la deuxième question. Qui était-il pour s'engager de la sorte, au-delà même de sa propre vie et des promesses que peut faire un simple mortel. Ceux qui l'ont côtoyé sont unanimes. Et même l'officier romain, qui était de garde auprès de la croix jusqu'à sa mort, il en a convenu. Cet homme est-il le Fils de Dieu, officier romain. Mais c'était trop tard, il était mort. Ses disciples se sont retrouvés dans un grand désarroi, seuls et perdus sans lui, lui en qui ils avaient mis toute leur espérance. Mais quelle n'a pas été leur surprise de le voir ressuscité 3 jours plus tard et bien vivant, ainsi qu'il le leur avait annoncé. Mais ils n'avaient pas compris, et parce qu'à leurs yeux, sa mort n'était même pas envisageable. Il avait fait tellement de choses incroyables pour les autres. Comment imaginer que, même ressuscité des morts, comment imaginer que la mort pouvait l'atteindre? Après sa résurrection, il est resté quelques semaines avec eux, non sans leur recommander de lui faire des disciples au milieu de tous les peuples de la terre. Sa résurrection, sa victoire sur sa propre mort est l'attestation de sa nature divine. Dieu fait homme pour apporter à l'humanité par la foi. Pour apporter à l'humanité le salut par la foi de ceux qui croiraient en lui. Par la suite, les disciples ont beaucoup insisté sur la résurrection de Jésus, sur le fait qu'il a été vu par des centaines de personnes à la fois et en divers lieux. Peut-être que vous m'avez cru jusqu'à présent. Et que là, le coup de la résurrection, ça commence à faire beaucoup. C'est comme vous voudrez. C'est ici que s'arrête l'histoire. Et c'est ici que commence la foi. Par ce que Jésus a fait, par ce qu'il a dit, par sa mort sur la croix, alors que rien ne pouvait lui être reproché, par sa résurrection, alors qu'il avait déjà été mis au tombeau, tous ceux qui ont croisé sa route se sont trouvés confrontés à la même question. Est-ce celui-ci en qui je dois croire ? Le choix qu'ont fait ses compatriotes a été de douter qu'il puisse être autre chose que le fils et les frères d'une famille du coin. Et ce malgré la grâce qui leur a été faite de quelques petits miracles pour leur laisser le même témoignage qu'à tous les autres. À l'opposé, la femme de notre texte a choisi d'aller en paix, dans la confiance en Jésus pour l'éternité, pour la vie éternelle. Ma prière pour chacun de vous ce matin est que coule en lui la source de Jésus-Christ.